Bonjour, c'est Alex, vous êtes sur Antenne 87. Je vous propose de passer 45 minutes en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous partager ses souvenirs, nous dévoiler ses émotions, au gré de ses confidences musicales. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ces nouvelles confidences musicales. Alors depuis que je fais cette émission, il m'est souvent arrivé d'avoir des personnalités très surprenantes. Mon invité ce matin est, je crois, ce que l'on peut appeler un iconoclaste. Et il est beaucoup trop modeste pour se qualifier lui-même. Alors, est-il agriculteur, chercheur, historien, libre penseur? Ce sera à vous de vous faire votre opinion en passant cette heure avec nous sur Antenne 87. Et surtout, tendez bien l'oreille, car si sa voix est basse et discrète, elle en dit pourtant beaucoup. Diana.
L'onde del amore non si calma mai.
Alain Basson, bonjour.
Bonjour Alex.
Merci de vous prêter à ce jeu des confidences musicales et merci pour ce très très beau morceau qui plante tout de suite le décor. On sent qu'on est sur quelque chose de dense, de profond. Qu'est-ce que c'est ce morceau ?
Eh bien, c'est un chant traditionnel corse, c'est les polyphonies corses. C'est un petit clin d'œil, si je puis dire, à toutes ces cultures du monde entier qui révèlent beaucoup de la richesse des peuples et qu'il faut maintenir, quelle que soit leur vie, leur nationalité.
Je crois que c'est un sujet sur lequel on va beaucoup revenir dans l'heure, hein, l'humanité, la tolérance, la curiosité, l'ouverture à l'autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes assez inclassable, et je préviens tout de suite les auditeurs, ce côté inclassable, on va aussi l'avoir dans la playlist, qui est fort belle et qui va être extrêmement surprenante. Alors surprenante à deux raisons. D'une part par le choix tout simplement des morceaux, hein, qui vont être assez différents les uns des autres, et par les morceaux eux-mêmes qui révèlent des surprises. On ne dit rien, mais on va passer des morceaux qu'on croit connaître, et finalement, c'est une interprétation totalement iconoclaste, comme vous. Donc surtout, restez avec nous. C'est vrai qu'il va y avoir de la réflexion, il va y avoir de la pensée ce matin, mais aussi de très très belle musique. Alors, donc, j'ai dit en introduction, Alain, vous êtes agriculteur, vous êtes penseur, vous êtes chercheur, un peu historien aussi. Vous, comme ça d'emblée, quand on doit, quand vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous dites en premier ?
Oh ben, c'est très simple, paysan.
Vous êtes paysan, mais c'est pas, dans les classifications de métiers, ça ?
Ben, c'est qui vit du pays, avec le pays. Voilà, c'est
avec le pays, large, avec la terre.
Il n'y a pas que la notion de production agricole, il y a toute la vie culturelle aussi.
Mais dans certains papiers, on ne trouve pas paysan quand même. Hein. Et agriculteur, donc ce n'est pas assez
alors,
complet.
Paysan, c'était souvent vu très négativement.
Oui.
Or que le sens premier, il est très noble.
On va y revenir également. Alors, vous êtes vraiment un enfant du pays. Vous êtes un enfant des plaines champenoises. J'ai envie de parler avec vous de l'enracinement. Avant toute chose, quand même, je dois dire que c'est la première fois que je prépare l'émission, non seulement avec mon invité, mais avec un livre qu'il a écrit. Vous avez écrit deux livres. Vous m'en avez offert un que j'ai lu avec attention et donc je me permettrai pendant cette émission de vous citer un petit peu. Alors de vous citer vous, puis de citer d'autres, hein, parce que vous avez convoqué Bachelard, Montesquieu, donc on verra qui je cite. Mais en attendant, j'ai effectivement envie que vous nous racontiez un peu votre histoire de famille et pour démarrer, je vais citer cette phrase que j'ai trouvée dans votre livre. Faut que je mette mes lunettes quand même. Dans la joie, le bonheur profond, l'histoire demeure un havre de paix, une conscience calme, une racine acceptée parce qu'elle est réalité. Parlons un peu de l'histoire de la famille Basson.
Alors moi je suis né dans les plaines champenoises puisque je suis né à La Chapelle-Lasson. Du côté de ma mère, on est enraciné depuis au moins le 16e siècle. Tant qu'on a pu remonter. Alors, du côté de mon père, il y a une grande partie qui est aussi champenoise, des plaines de Champagne, à côté de Vertu. Mais du côté de sa maman, il est breton et lui est né breton.
Il y a eu une petite échappée, si
alors,
on peut dire.
C'est l'histoire qui a fait ça, l'histoire de mon grand-père, donc du père de mon père, qui pendant la guerre 1915-1916, il a été retiré du front. Pendant la guerre, parce qu'il était malade, il a été envoyé à l'hôpital et après, il n'est pas reparti. Ils ne l'ont pas renvoyé sur le front. Ils l'ont envoyé comme il était boulanger en Bretagne pour faire le pain. Et c'est là qu'il a connu ma grand-mère et mon père et ses deux frères sont en Bretagne.
Ouais, et c'est marrant ce que vous me dites, enfin, ce que vous partagez avec nous, parce qu'on l'a eu avec un autre invité, effectivement, quelqu'un qui était venu pour nous parler de la Première Guerre mondiale, un érudit local, et il a un peu la même histoire de famille. Voilà, un couple qui s'est fait au hasard des moments de guerre ou de retrait sur le fond. Donc, vous êtes une famille champenoise depuis au moins le XVIe siècle.
C'est... Et puis mon père, il est revenu avec sa famille, donc son père et sa mère, ses deux frères, en 1926, en Champagne.
Ok, et là, il s'est installé.
Alors là, pas tout de suite. Il avait 8 ans quand il est revenu en Champagne. Donc, il a fini l'école. Et puis après, il a été un petit peu travaillé. Et c'est qu'en 1945 qu'il a rencontré ma mère et qu'ils se sont mariés.
Et du coup, votre mère était ici d'une famille de paysans ?
Oui, en partie, et d'enseignante aussi.
Mais ensemble, ils sont devenus agriculteurs.
Oui.
Ok. Donc c'est là votre premier attachement à la terre de la chapelle Lasson,
voilà.
si je puis dire.
Mon père, quand il s'est marié, il est revenu au village de ma mère.
Alors, quel est, Alain, vous, votre cheminement personnel ? On a bien compris l'enracinement champenois de la famille, mais vous, votre cheminement personnel, vous avez quitté la Champagne à un moment pour en revenir ? Est-ce que vous étiez destiné à reprendre la ferme, être vous-même agriculteur ?
Pas du tout. Mon cheminement, il est assez particulier parce que je devais peut-être être un peu rebelle. C'est qu'à 8 ans, dans l'école de mon village, une fois, je me suis sauvé. Je n'étais pas content, j'avais un profond sentiment d'injustice. Et je pense que c'est ce qui m'a dû valoir d'être envoyé en pension. C'était un petit peu tôt. Et ça n'a fait que renforcer ma solitude. Mais aussi, dans cette solitude, j'ai passé mon temps à observer tout le temps, y compris dans la cour de l'école, dans l'école, les professeurs, les autres. Et c'est resté en moi.
Oui. Et c'est là que vous avez développé ce regard sur le monde, sur l'autre.
Je pense que ça a contribué beaucoup. Ouais.
À quel moment, enfin, on va rapidement, mais comment vous êtes finalement arrivé à l'agriculture, qui vous a un peu rattrapé ?
Alors, par mes études, un peu aussi. J'ai plus ou moins choisi mes études. mais je crois que le grand déclic, c'est quand j'ai fait quelques études supérieures à Clermont-Ferrand, dans un milieu où les gens venaient de toute la France, même plus, puisqu'il y en a qui venaient
de
la France métropolitaine, mais il y avait aussi des étrangers. Et puis c'était juste l'après 68, et donc il y avait toute une effervescence culturelle. Il y avait le Larzac qui commençait, et tout ça m'a éveillé un monde. Et ce désir qui a commencé à naître en moi de faire une sorte d'agriculture, et j'ignorais encore laquelle.
Est-ce que à ce moment-là, vous aviez le sentiment que c'était une utopie ou c'était vraiment quelque chose que l'on pouvait, même à sa petite échelle, mettre en place pour changer le monde ou contribuer à changer le monde ?
À cette époque-là, le mot utopie était très, très utilisé. Oui. Mais ce qu'on m'a toujours dit, c'est que j'étais un utopiste. Ouais. Ça, je l'ai entendu bien après. Mais je dis toujours, mes utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui.
Alors, quand on vit dans les plaines de Champagne, et encore plus quand on travaille la terre, on est proche des éléments. Et le prochain morceau, ça s'appelle « Blowing in the Wind ». Vous l'avez choisi et on l'écoute ensemble. Ça parle évidemment de vent.
Seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? My friend.
bien, merci pour ce petit Bob Dylan. Ça fait du bien. Alors, c'était un live à la télé en 1963. Est-ce que vous avez eu la chance de le voir, Bob Dylan ?
Non, non.
Non ? Alors, on se disait en aparté, vous auriez bien aimé la version avec John Baez.
Oui.
Pourquoi ?
Oh, c'est un clin d'œil aux deux, hein, mais John Baez, c'est une personne très humaine qui a chanté pour la paix et l'amitié des peuples, y compris pendant des périodes difficiles, hein, aussi.
Ouais, on sent que tout ça, ça converge hein, quand même. Hein. Tout ça, ça va dans le même sens. On va y arriver progressivement. En tout cas, je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'on a parlé de l'histoire de la famille. Bon, on sent bien qu'il y a eu de la généalogie. Hein, si vous êtes capable de dire que ça remonte au XVIe siècle, il y a eu un travail de fait. Et comme je le disais dans mon introduction, vous êtes un petit peu modeste. Et de ce fait, vous ne nous avez pas dit que vous aviez quand même des ancêtres totalement illustres et dans des domaines différents.
Alors, pas en ligne totalement directe, mais oui, effectivement, Georges Danton, le conventionnel, qui est né à Arcy, dont le père est né à Charny de Bachot.
Donc on appelait le Girondin, mais qui n'avait rien à voir avec la Gironde.
C'était le groupe politique.
Ok, contre les Jacobins. Ouais.
Et puis Flaubert, bah oui, c'est pareil, c'est une branche indirecte, mais une branche quand même, dont le père est né à Mézières-la-Grande-Paroisse, et oui. Puis qui ont vécu aussi pas mal, à côté de Nogent. Donc il a écrit aussi des livres.
Ah oui, alors là. Que pour moi, Flaubert, c'est totalement la Normandie. Moi, je l'associe totalement à la Normandie. Donc on apprend ce matin que Danton et Flaubert sont quand même des plaines champenoises.
Ah oui, oui.
Je suis époustouflée.
Flaubert n'est pas né en Champagne, mais son père.
Enfin, il est comme vous, enraciné. Bon, voilà, sauf qu'il est parti. En tout cas, vous êtes ici avec nous et j'aimerais commencer par une petite page un peu historique et puisque on va voir hein, pendant cette heure, vous êtes vous cherchez les mots, la racine des mots, pourquoi dit-on telle chose et telle autre, est-ce que ça veut dire exactement. Et alors, il y a une expression dont on a parlé tous les deux, c'est la champagne pouilleuse. Alors, on a tous notre idée de ce qu'est la champagne pouilleuse. Mais je pense qu'avec vous, ce matin, on va savoir exactement ce que c'est et ce que ce n'est pas. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous dire c'est où c'est et pourquoi?
Très vite, alors.
Ouais.
J'ai une autre passion, c'est l'histoire. Et l'histoire de l'agriculture et l'histoire de la plaine champenoise.
C'est parfait, bienvenue sur Antenne 87. Voilà.
Et c'était aussi l'objet de mon travail pendant 50 ans pour comprendre cette histoire de la champagne pouilleuse. Parce qu'elle s'appelait pouilleuse. Et à partir du 18e, 19e siècle, elle est devenue, le mot pouilleux est devenu très négatif, c'est-à-dire lié au poux,
oui, à la pauvreté. À la saleté, à la pauvreté, à la crasse, tout ce qu'on veut.
L'origine, ce n'est pas du tout ça. L'origine, c'est que sur les savards de champagne, alors je ne vais pas m'étendre sur ces savards, si je puis dire, de champagne, donc ces grandes étendues où paissaient les moutons.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de moutons.
Oui, il y avait beaucoup de moutons. Mais depuis le néolithique, c'était des peuples de passage. Mais sur ces savards, ils poussaient ce qu'on appelait le pouillot. Le pouillot qui était le thym serpolais.
D'accord.
Alors, dans mes recherches, j'ai aussi beaucoup été voir des anciens. Et certains m'ont dit, des bergers, m'ont dit qu'ils appelaient la pouille sur ces savards, justement, une herbe totalement différente que les moutons n'aimaient pas manger, qui était très riche. Donc, c'est soit une fétuque élevée, soit la brachypode peinée. Ils n'ont pas su me dire, mais je pense que c'est une de ces deux plantes-là qui poussait beaucoup sur les savards, des graminées.
Ok, donc c'était ça la champagne pouilleuse, donc pas du tout la champagne des pauvrets, c'était donc le pouillot. Donc le pouillot, c'est une mauvaise herbe.
Alors, pas forcément, hein, le thym serpolais, c'est pas... Alors, justement, pour parler de ça, le mot pouilleux a donné aussi, dans le langage local, le mot pouille et le mot empouillé.
Alors là, je ne connais pas du tout. Je suis champenoise, hein, je vous garantis.
Alors, ça dépend si on est de notre région à nous, du sud de la Champagne, où là, le mot empouillé voulait dire justement qu'il y a, dans la culture qui a été mise en place, des pouilles, des mauvaises herbes, comme on les appelle, avec beaucoup de guillemets, parce que moi, je ne parle pas de mauvaises herbes. Il n'y a rien de mauvais dans la nature.
Voilà. Et voilà où je voulais vous amener, cher Alain, c'est que dans le livre que vous avez écrit, on parle beaucoup de mauvaises herbes. Évidemment, il ne faut pas prendre mauvaises herbes, forcément, au premier degré. Et d'ailleurs, vous citez Victor Hugo. On va reprendre cette phrase. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et c'est l'ex-Jean Valjean devenu Monsieur Madeleine qui dit ça dans Les Misérables. Ouais. Est-ce que vous avez envie de parler de cette phrase?
Oui, alors je peux donner une précision scientifique. On pourrait dire que ces herbes sont des plantes spontanées, spécifique du biotope.
Ok, d'accord. C'est quoi le biotope?
Alors, on va dire que le biotope, c'est un milieu de vie. C'est-à-dire qu'une plante, mais pas forcément, tout ce qui est faune et flore, ont une signification. Elles ont une place, elles ont une origine, elles ont un biotope, c'est-à-dire une origine dans l'histoire.
Il y a une raison pour laquelle elles sont là.
Voilà.
Il y a un sens à tout ça.
Et c'était un des principaux travaux de recherche de ma vie.
Très bien.
De les comprendre, comme ce qu'on appelle les maladies aussi, que moi j'appelle dysfonctionnement des plantes.
Et effectivement, les mauvaises herbes qui sont à un endroit dont on voudrait les chasser.
Alors c'est déjà une notion très sociologique parce que pour certains, on n'en veut pas. Et puis pour d'autres, elles sont utiles. Et donc déjà, il y a déjà des controverses là-dessus. Oui. Hein, ce qui peut
et on va revenir aussi un peu là-dessus hein, pendant l'heure, même si l'heure défile déjà. Mais c'est vrai que dans tout votre livre, on sent qu'il ne faut jamais s'arrêter à la première idée, au premier regard. Il faut aller un petit peu au-delà. Et d'ailleurs, je vais continuer de vous citer. Moi, j'ai retenu cette phrase. La liste de ces exclus de la tolérance humaine est longue. Les exemples fondent en cascade. La peur de la semence mal aimée, en vol ou en dispersion, comme beaucoup de peurs, comporte une partie d'irrationalité. On a peur de ce que l'on ne connaît pas.
Alors, notre approche de la nature est très révélateur de l'état psychologique, je vais dire, social, d'une société. Je vais prendre l'exemple du chardon, des plantes. Alors, le sursaut marvin, ça, je vais dire, pour le préciser. Dans mes recherches, il y a des arrêtés, des ordonnances royales de François Ier qui demandaient l'éradication. Et on en est toujours là, toujours là. Il faut l'éradiquer parce qu'on pense que cette graine de chardon qui vole facilement, elle va ensemencer tout. C'est complètement faux. Complètement.
Ça n'a aucune base scientifique. Donc on s'est totalement fourvoyé.
Oui. C'est ce que Gaston Bachelard disait, l'évidence première qui n'est pas une vérité scientifique.
Ah, vous me l'avez pris cette phrase, je voulais la donner. Bon, c'est pas grave, allez, je suis bonne joueuse. Pour la peine, on va écouter un morceau qui vous tient à cœur également. Ça, c'est une hyper surprise de votre playlist. C'est un petit peu long, donc on va le lancer pour capter la surprise et puis ensuite on commencera à parler dessus, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce morceau, Alain? On veut tout savoir.
C'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak qu'il a écrit quand il est arrivé aux États-Unis.
Aux États-Unis, hein,
lui qui venait de l'Europe. Et de
Europe centrale.
Hein. Ce qui est la Tchécoslovaquie maintenant.
Et alors, donc, c'est une version de Valdo de los Ríos.
Voilà, c'est une version
un tout petit peu modernisée, on
va
dire.
C'est ça. Mais qui, moi personnellement, j'avais déjà beaucoup écouté à l'école de classique, mais ça m'a encore plus rapproché de la musique dite classique, parce que j'aime pas les classifications.
En fait, encore une fois, c'est prendre un peu un chemin de traverse.
Oui, il fait,
voilà, on rentre pas frontalement dans le truc, on va regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et ouais, j'adore. Alors, on
et puis c'est un petit souvenir aussi de mon voyage à New York, parce que j'aime pas du tout l'avion. Mais j'ai mon amie qui est enseignante et chercheuse dans une université à New York qui m'avait dit faut venir. Et donc c'était un petit clin d'œil parce qu'elle m'a offert aussi ce concert à New York au Carnegie Hall.
Oui, il y a peu d'endroits aussi beaux que le Carnegie Hall. Hein. Alors, donc on écoute en fond sonore toujours un petit peu c'est une symphonie, je crois, de Dvorak.
Oui,
et on revient et puis ensuite on va passer à autre chose. Mais tout à l'heure, on parlait des mauvaises herbes, des déracinements, etc. Et je voudrais enchaîner grâce à une phrase, encore une fois, hein, que j'ai prise dans votre livre, qui dit « L'histoire de l'humanité pourrait se résumer en déracinements répétés, une migration infinie jamais achevée. » Je crois que ça vous tient à cœur parce que, on peut le dire, vous avez un esprit de tolérance, d'accueil. Quand vous m'avez raconté un peu votre histoire, voilà, on sent déjà hein, que vous êtes dans l'ouverture à l'autre, les gens se valent, il faut aller vers eux. Mais vous avez aussi été visiteur de prison.
Oui. Alors,
pas banal, hein, ça n'est pas commun.
Alors, j'ai été dans les prisons pendant une quinzaine d'années, pas totalement comme visiteur, mais j'étais dans les prisons. Et puis aussi, j'ai accompagné des sortants de prison.
En faisant quoi en les accueillant dans votre ferme?
Oui, sur ma ferme. Oui. Okay. Et puis aussi, ailleurs aussi, quand ils avaient du travail à côté, je les accompagnais pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils soient relativement autonomes. Relativement.
Oui. Et ça durait combien de temps à peu près?
Une quinzaine d'années au total, donc jusqu'en 1990.
Alors 15 ans pour vous, mais pour eux, c'était un accueil qui durait combien de temps? Quelques semaines,
alors,
quelques mois.
Ça s'était précisé dès le départ, et puis également avec la justice, avec le comité post-pénal, où c'était normalement une année.
Mm-hmm.
Pour laisser de la place aussi à d'autres, et puis pour que ça soit un tremplin.
Tout à l'heure, c'est vrai que dans votre introduction, j'aurais pu dire mille autres choses, et il y en a une qui m'a échappé, mais je voudrais le dire maintenant, c'est qu'on sent que vous êtes un homme qui a les pieds dans la terre, mais la tête et le cœur dans l'univers, et ça transparaît dans tout ce que vous avez essayé de faire. Je sais, vous êtes modeste, vous êtes humble, mais quand même,
oui.
C'est quand même pas banal ce que vous faites. Vous avez aussi continué en faisant de l'accueil de jeunes enfants.
Oui, alors ça c'était mon idée aussi qui est née quand j'étais étudiant à Clermont-Ferrand, d'avoir un espace, l'agriculture peut-être, pour pouvoir accueillir alors des gens qui sont en difficulté, mais aussi offrir un lieu pour une autre forme d'enseignement. Et c'était des années. Alors ça s'est prolongé justement après ma période avec les gens des prisons. J'ai continué pendant plusieurs années, je ne sais plus combien exactement, avec des écoles pour travailler avec eux.
Est-ce que c'est un enseignement évidemment plus proche de la nature, on le conçoit, mais aussi plus proche des sens? C'est-à-dire savoir écouter l'eau qui coule, regarder les étoiles.
Alors, ça serait, je dirais plus que, pour les enfants, je vais le dire pour eux, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, puis les enseignantes d'ailleurs, c'est que c'était très concret. C'est-à-dire que faire des maths en calculant combien a une vache a produit de lait,
oui,
les
c'est plus simple que des trains qui se croisent.
Ou le poids de leur petit veau qu'ils avaient parrainé, qui était né sur ma ferme et que je pesais tous les mois. Et ils voyaient la croissance de ce petit veau. Entre autres, après, il y avait eu un travail sur la haie, les arbres, il y avait un travail sur le pin. Et puis, il y a eu des échanges magnifiques avec l'Alsace aussi.
C'est-à-dire ?
Avec d'autres écoles d'Alsace aussi.
D'accord. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'accueil dans votre ferme.
Oui, oui.
Bon, mais quand même, pour parler pratico-pratique, quand vous êtes encore en activité ou vous ne l'êtes plus ?
Non, je viens de prendre ma retraite.
D'accord. Mais quand vous étiez en activité, cher Alain, vous cultiviez quoi ? Vous exploitiez quoi exactement ? pour qu'on ait une idée.
Il y a toute une évolution, mais je vais dire, je vais prendre les 15-20 dernières années. J'avais des vaches, quelques vaches où je faisais les dernières années, les 20 dernières années. La transformation de tout, je mettais le lait en bouteille, les vaches laitières, je mettais le lait en bouteille, les crues, je faisais du beurre, du fromage blanc, de la crème. Et puis j'élevais des veaux aussi, quelques moutons et quelques porcs pour manger le petit lait, le lait de reste ou le babeurre et autres.
Mais il y avait aussi des céréales.
Et puis à côté, j'avais des céréales, beaucoup de prairies. Parce que mon but de recherche, c'était de comprendre pourquoi la Champagne était si pauvre. Et donc, je me suis mis dans les conditions en n'achetant aucun intrant et en vivant, en essayant d'être autonome. Et en recherchant aussi dans l'histoire qu'est-ce qui était cultivé encore au 19e siècle, notamment les blés et céréales dites anciennes, donc de ces époques-là, qui n'ont jamais été sélectionnées pour comprendre quel était leur pouvoir de production. Voilà, donc j'avais du blé aussi à côté, de l'avoine pour la consommation humaine, de l'orge, et puis quelques autres plantes diverses, du sarrasin parfois, et puis du lentillon, le lentillon qu'on appelait de Champagne, maintenant on n'a plus le droit de l'appeler lentillon de Champagne.
Bon, on ne sait plus comment on l'appelle.
Champenois. Voilà.
Champenois. Alors moi, j'ai toujours des questions un peu impertinentes. Hein. Alex, elle est comme ça. Quand vous avez essayé tout ça, bon, effectivement, pas d'entrant, on revient sur des plantations anciennes. Est-ce que les gens se sont dit, c'est un original, pourquoi il fait ça? Ça sert à quoi? C'était quoi votre credo, vos valeurs en faisant ça?
Même si j'étais isolé, pour moi, c'était rester moi-même. C'était aussi une façon de continuer à me chercher, à me connaître. Parce que je pense qu'on n'a jamais fini de se connaître, comme disait Pythagore.
Mais est-ce que c'était aussi votre engagement au monde? C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est vrai que quand on parle agriculture, hein, on parle évidemment rendement, consommation, etc. Ça, ce sont vraiment des mots... que vous supportez mal?
Non, c'est pas. J'ai tolère. Moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis et on échange beaucoup qui font l'agriculture conventionnelle. Ça m'intéresse beaucoup de suivre. Mais moi, ma volonté, je crois que ce qui était mon essence même de ma vie, c'était de chercher une agriculture, outre l'aspect historique, hein, de recherche d'histoire et d'aspect scientifique, c'était aussi d'avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse du consommateur et puis des autres peuples aussi. Pas que nos façons de produire aient une influence négative sur d'autres peuples.
Alors ça, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Mais avant, on va refaire une pause musicale. Alors, je vous titille un petit peu, hein, Alain, mais c'est vrai que vous avez quand même choisi comme morceau l'incompris. Vous vous êtes senti incompris?
Non.
Non.
Ce morceau-là, c'est pour le groupe Jalamano. C'est pour
d'accord.
Eux.
Allez, on écoute Jalamano.
Qui est un groupe local, hein, de la région. Hein.
Ils sont d'où exactement?
Romilly 3.
Ah oui, en effet, c'est complètement les plaines de Champagne.
Même s'ils ont des origines un peu diverses. Hein,
en attendant, ils sont enracinés, plaines de Champagne voilà. Également. Allez, on les écoute, c'est l'incompris. Thank you. Alors on reprend un petit peu le micro Alain, hein, parce que effectivement le morceau est un petit peu long pour notre émission. On va continuer à l'écouter tout en parlant dessus. Alors effectivement ça s'appelle L'Incompris, mais alors moi je vais quand même encore ressortir une phrase de votre livre. Ah non, c'est pas une phrase de vous, tiens, c'est Montesquieu. Excusez-moi du peu. Donc Montesquieu qui disait « J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. » Donc vous avez un amour des paysans.
Oui, parce que trop souvent, et encore même maintenant, le monde agricole, alors peut-être qu'il ne donne pas toujours une bonne image, mais c'est un peu, c'est ce que j'ai entendu encore dans ma jeunesse, quand j'ai choisi l'agriculture, c'est des personnes qui me disaient « Pourquoi tu es devenu agriculteur après les études que tu as faites ?» C'est ce que des
ah oui, c'était un peu dévalorisant comme
voilà,
métier.
C'est ça. Mm-hmm. Tu es agriculteur
alors que,
parce que tu n'as pas pu
que
faire
vos
autre chose.
Alors que vos études vous ont apporté autre chose, oui. pour l'exploitation, en fait. Hein.
Et puis même au niveau humain, oui.
Alors, en parlant d'agriculture, j'ai aussi noté cette question que vous vous posez dans le livre. Et là, je ne sais pas si on va y répondre ce matin, hein, mais on va peut-être essayer de donner une approche. Pour, donc, parlant de l'agriculture, comment en est-on arrivé à une situation si paradoxale, loin de la fonction de l'aliment, c'est-à-dire nourrir la vie tout simplement. Il y a eu une dérive, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais, oui, parce que à l'origine, l'être humain, une des premières choses, c'est d'abord se nourrir, hein. C'est comme le reste de la nature, c'est déjà d'avoir sa subsistance. Après, de se couvrir, de se protéger, mais c'est la première notion. Donc pendant des millions d'années, des milliers d'années, ou des millions, où on trouve l'origine de l'être humain, eh ben, c'était ça, là, se nourrir. Et puis progressivement, à partir du néolithique, après la dernière glaciation, donc il y a 10-12 000 ans, c'est là que l'homme a commencé, l'être humain, hein, quand je parle de l'homme, c'est l'être humain a commencé à se sédentariser progressivement, très progressivement. Parce que pour la plaine champenoise, justement, les transhumances ont continué, les moutons, pendant très longtemps. Ces peuples nomades menaient les moutons au travers des savards de Champagne ont continué pendant très longtemps, y compris la plaine de Champagne a servi aussi aux transhumances, par exemple, ce qui est peut-être ignoré maintenant, aux bergers alsaciens qui partaient au printemps d'Alsace, ils prenaient aussi en Lorraine et ils venaient passer l'été sur les savards de Champagne et repartaient à l'automne en Alsace.
Donc on était une vraie terre de,
jusqu'en
de, 1960... d'accueil, de passage, une étape.
Oui, 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 jusqu'en 1962, dans mes recherches où j'ai trouvé, alors là c'était avec les trains, mais les moutons alsaciens venaient en Champagne jusqu'en 1962. Après, les transhumances se sont arrêtées après.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, Alain, sur ce que vous aviez voulu amorcer tout à l'heure, c'est-à-dire que L'agriculture chez nous doit être respectueuse des autres, même très éloignée de nous. Quelles sont les interactions entre ce que l'on fait ici et qui a un impact ailleurs?
Je vais schématiser hein, parce que je pourrais prendre plus d'exemples. Pendant très longtemps, après la guerre 45 surtout, mais encore maintenant, on utilise beaucoup de soja pour alimenter les animaux. On n'est plus à la prairie, on n'est plus à nos céréales locales, parce que le soja est très riche en protéines et donc on peut faire engraisser les bêtes, que ce soit des bovins, les moutons ou les volailles, très rapidement. Et ce soja a été produit essentiellement au Brésil, pas seulement, sur les forêts équatoriales qu'on défrichait. Et ça se faisait au détriment des cultures vivrières de ces peuples-là. C'est un exemple, je pourrais parler aussi des engrais, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur tout.
Est-ce que c'est toujours d'actualité pour vous?
Ah oui, oui, plus que jamais. La forêt équatoriale, elle est bouffée régulièrement tous les ans, oui.
Donc votre combat, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Votre combat, ça a été de faire, vous, à votre échelle, quelque chose de respectueux?
Oh, j'aime pas trop le terme.
C'est ça
pour
qui
moi,
vous
c'est
a guidé?
La violence, mais je vais dire, je peux pas changer le monde, mais je peux changer mon monde.
Et puis, vous vous regardez dans la glace le matin sans aucun problème. Il y a un petit peu de ça.
Bah, c'est pas ça.
Non, mais vous êtes en accord avec vous-même.
Ça, c'est très précis, c'est ça. Accord avec moi-même.
Très bien. On va enchaîner avec un autre morceau aussi surprenant. C'est un morceau de Vivaldi. Issu des quatre saisons. Donc vous avez choisi l'hiver.
Oui.
Mais attention, encore une surprise. Écoutez bien. Thank you. Mais épatant ce morceau, cher Alain. Qu'est-ce que c'est ? Donc on a compris, hein, je l'ai dit, ce sont les quatre saisons, revisitées à l'accordéon. Qui est l'interprète ?
Eh ben, c'est un accordéoniste des Pays-Baltes, hein, je crois, lituanien.
Eh ben, impeccable. Et alors l'accordéon, ça vous parle ?
Oui, parce que c'est mon instrument de basse que j'ai appris à partir de 11 ans.
Instrument de base, c'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres ?
Oui, je suis assis un peu à d'autres. Et puis, c'est surtout que j'ai plus travaillé. Alors, je continue à le travailler, mais je n'ai jamais pu devenir virtuose. Pas ces capacités-là. Mais par contre, j'ai beaucoup plus travaillé la voix après. C'est un instrument de musique, mais ma voix.
Ok, donc voilà. En fait, vous chantez.
Voilà, exactement.
Beaucoup ?
Oui, beaucoup.
Vous chantez en chœur aussi, avec une compagnie
Là, je chante en chœur. J'ai repris un groupe. La Covid a cassé beaucoup de
choses. Beaucoup de dynamique, oui.
Ouais, c'est ça. J'étais avec les Sénels auparavant, à Épernay. Mm-hmm. J'aimais beaucoup tout ce qu'on faisait. J'ai beaucoup évolué en musique. Et puis, je suis revenu avec un groupe d'origine qui s'appelait La Champanelle. Mais maintenant, c'est un atelier musical aussi. Et puis, je chante par ailleurs avec... une dizaine d'autres personnes.
Ah oui, mais c'est incroyable, on ne vous arrête pas. Je crois que vos journées sont très, très remplies. Hein. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'agriculture, évidemment, hein, parce que c'est votre métier de cœur. Et je voudrais là encore une fois faire un petit lien entre plusieurs idées qui reviennent beaucoup dans le livre, notamment la diversité. Et j'ai lu cette phrase, la subsistance des individus n'est pourtant pas liée à la croissance des rendements au regard de l'histoire, mais à la diversité et à la disponibilité. Je crois que ça en dit long sur tout ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire produire selon les nécessités, produire de façon équitable. Ça en dit long, cette phrase.
Oui, mais c'est aussi... Dans mes recherches, hein, disons qu'il y a des recherches bibliographiques aussi, bien sûr, hein, et je me suis aperçu que plus on produisait et qu'on restreignait la diversité, et plus les famines, il y a eu des famines, oui, mais plus la difficulté à se nourrir existait. Donc c'est bien la diversité qui fait aussi l'alimentation. Je vais résumer comme ça.
Bah oui, aussi simplement que ça.
La diversité aussi des plantes qui fait la diversité des paysages, la diversité des cultures, bien sûr. J'extrapole toujours. Parce
en
que
fait, tout fait sens. Hein.
Oui.
Tout fait sens. Évidemment, on l'a compris dans votre discours, il y a aussi la diversité des hommes. Mmh. Et on enchaîne tout de suite avec un morceau qui vous tient à cœur, un morceau très connu de Johnny Clegg.
Hasimbonanga. Hasimbonanga Mandela Tina La Pekona La Pefelikona. Burning water.
kona haungiti hey wena
hey wena
hey wena
hey wena
nawe
so fika nini la siya kona la siya kona
hasi
Alors Alain, là on enchaîne avec un autre morceau qui vous est très cher, encore un morceau corse, mais donc on l'a en fond sonore, et ça ne nous empêche pas de parler, parce que je crois que vous voulez quand même dire quelque chose sur ce morceau de Johnny Clegg et Savuka.
Ben, c'est rappeler la richesse et la diversité de la musique africaine d'une part, et puis aussi cet homme, Johnny Clegg, qui a osé braver l'apartheid et aller chercher dans son groupe Savuka. Des musiciens et des chanteurs d'Afrique du Sud. Alors, j'aurais pu prendre aussi de nombreux chœurs sud-africains qui sont magnifiques, notamment les chœurs universitaires sud-africains qui sont une grande, grande richesse.
Mais déjà, on a vu avec votre playlist un peu où vous vouliez nous emmener.
C'est très symbolique, Johnny Clegg. Voilà.
Oui, je l'ai bien compris quand j'ai reçu vos choix. Et bien, on est dans ce que j'appelle un peu la phase d'atterrissage de l'émission. Malheureusement, on va devoir se quitter. On aurait pu passer des heures, hein, parce qu'il y avait des sujets à approfondir. On a ouvert des petites portes, je crois, quand même, ce matin. Hein ? Faudra revenir, Alain ? Faudra revenir.
Oh, bah, si tu m'invites, Alex.
Mais ça sera avec grand plaisir. En attendant... Moi, je voudrais quand même, on a parlé de la diversité tout à l'heure, donc je voudrais, si vous le permettez, si tu le permets, je crois qu'on a envie de se tutoyer, oui. Si tu le permets, je vais lire quand même un petit poème, parce que au-delà du chercheur, du penseur, de l'historien, il y a aussi le poète qui a écrit ce petit poème, qui, avec un jeu de mots, vous avez compris qu'il faisait beaucoup attention aux mots. Hein. Il les tord, il les étire, il les coupe, etc. Donc, diversité, qui fait diversité, et ça donne ça. Visage aux multiples couleurs, multitude de reflets émotionnels, sollicitude des aspirations nouvelles, ronde des âges dans la danse des cœurs. Vous êtes l'éclat de beauté des paysages, les chants de la terre et de l'univers, l'onde du soleil qui diffuse sa lumière, l'arc dans le ciel qui berce les nuages. Que naissent de l'humanité épanouie les fleurs impromptues, créatives d'harmonie. C'est joli ? Merci Alain. Là, je crois que ça résume assez bien toutes tes aspirations, tes valeurs, ce qui compte fondamentalement pour toi. Et comme j'ai encore un petit peu de temps, j'aimerais quand même... redire deux, trois petites choses que j'avais notées dans ton livre. On n'a pas eu le temps de parler effectivement de ce regard que tu portes sur les mots. Tu regardes, tu les tritures un petit peu. Et moi, j'ai noté des choses qui sont très douces et que j'ai envie de partager avec les gens, avec les auditeurs. Par exemple, tu as noté, parce que tu étudies beaucoup les langues étrangères, tu regardes, et tu as noté que le mot « maman » dans toutes les langues comporte souvent des syllabes « ma, mo, mou » qui se prononcent en faisant un baiser avec les lèvres. Franchement, il fallait y penser. Mais c'est vrai, quand j'ai lu ça, évidemment, j'ai fait le geste que tu viens de faire, qui est tout doux. Et je me suis dit, mais quelle douceur dans ce que tu viens de voir. C'est vrai que quand on dit maman dans toutes les langues, on fait un baiser avec les lèvres. Petit clin d'œil à toutes les mamans du monde. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé, et là je vais un peu plus te laisser la parole, mais quand tu regardes les expressions, parce qu'il y a les mots, mais il y a aussi les expressions, hein, qu'on combine avec les mots, il ne faut quand même pas s'arrêter à la première lecture. Par exemple, si on dit fermons les yeux, on comprend peut-être, on veut ne pas voir, on veut s'aveugler, mais on comprend quoi aussi ?
eh bien, on peut aussi fermer les oreilles et puis rejoindre Simon et Garfunkel.
Ah oui, mais là, son... je l'ai pas. Non, j'ai non, pas le temps pour Simon. Grave. Mais non, quand non, on ferme les yeux...
Leur chanson, le son du silence.
Oui.
Le son du silence. Il y a beaucoup de choses parce que justement, ça nous permet d'écouter beaucoup plus.
Donc, quand on ferme les yeux, c'est du regard intérieur.
Oui,
c'est quand ça. Quand on se bouche les oreilles, oui. On s'écoute soi-même et peut-être qu'on écoute mieux l'autre.
Oui, mieux
c'est
l'autre.
C'est ça ?
Exactement.
Oui. Tu vois, hein, j'ai quand même été assez inspirée par ton livre. Est-ce qu'on peut le trouver, ton livre ? Il est en vente ? On Alors, peut le trouver quelque part ?
Il était dans toutes les bonnes librairies de Cézanne. Mais là, ça y est, je viens de reprendre ce qui restait. Donc, il est disponible chez moi.
Ok, très bien.
La
Alors,
deuxième
écoutez,
édition, la première a été achevée.
Oui, j'ai vu que c'était une réédition. Tu l'as écrit quand, ce livre ?
Alors, là... 2000, alors je l'ai écrit sur 8 ans, parce que moi je suis...
D'accord, ok. En tout cas, moi j'ai une réédition de 2014.
C'est ça. Elle était, la première, c'était en 2012 et la deuxième, 2014.
Ok, en tout cas...
Et le deuxième, il est encore sur mon ordinateur, mais il est disponible. Si
et il est sur les mêmes thématiques ?
Non, c'était mon tour de Champagne à vélo.
Ah, très bien, car tu es aussi sportif.
Oui, j'ai fait pas mal. Mais justement, j'aborde beaucoup de sujets. C'est mes réflexions pendant que je pédale.
Ok. Alors, une autre réflexion que je livre à nos auditeurs et que j'adore, comme quoi tout est question de regard, mais aussi évidemment d'empathie hein, et de curiosité et de tolérance et d'ouverture. Quand tu poses la question, pourquoi un espace enchardonné serait-il de moindre valeur qu'une pelouse à orchidées ? J'adore cette phrase.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des soi-disant mauvaises herbes, pour les uns, c'en est pas, et puis pour les autres, c'en est pas.
Et puis la beauté, elle est là où on porte son regard avec, avec curiosité et cœur.
Il y a des animaux qui les adorent, ils ont besoin de ces plantes-là, les abeilles aussi, les ânes, enfin différentes plantes qui ont besoin de cette plante-là. Et elle a son rôle dans la nature, justement. Elle a son rôle.
Et enfin, je terminerai avec ces mots. Tout à l'heure, on a parlé de paysans, d'agriculteurs. Tu as dans ton livre toute une litanie. Bouzeux, bucolique, campagnard, schlop. Je ne connaissais pas schlop. Ça vient d'où, ça ? Croquant, fella, moudjik, prolétaire, niakoué, pekno, rustre. Lequel tu préfères ?
Bon, ben, moi, c'est paysan. Hein.
On reste sur paysan et la boucle est bouclée.
Parce que tous les autres, dans beaucoup de langues, c'est très, très péjoratif.
Oui, c'est vrai qu'on sent dans la litanie, là, il y a vraiment des idées diverses et variées. Hein. On va se laisser à regret, Alain, mais moi, je pense que tu vas revenir. J'ai évidemment passé un moment un peu suspendu avec tes propos et avec ta playlist qui est comme toi d'une profonde humanité. Non, tu vas présenter le morceau que l'on va passer en dédicace et nous expliquer pourquoi cette dédicace. Et si tu le permets, je vais finir. Pour une fois, c'est moi qui vais dire la dernière chose. C'est un extrait de texte. Alors, peut-être que tu pourras expliquer aux auditeurs. Un texte qui a été trouvé dans une église de Baltimore en 1692. Donc, je me permettrai de lire quelque chose. Mais explique-nous ce que c'est que ce texte.
Ben ça, c'était un texte qui a été trouvé dans une église, comme c'est marqué. C'est anonyme, mais c'est très, très beau. Je ne peux pas lire tout, mais moi, ça m'a...
Oui, c'est assez bouleversant.
Et ça apporte beaucoup de paix. Quoi.
Oui, absolument. Donc, on ne peut pas lire le texte parce qu'il est un petit peu long. On va finir sur une dernière phrase. Ce que je voulais dire, donc, parce qu'on ne l'a pas dit, le nom de ton livre...
Eh bien, c'est aussi un petit jeu de mots. C'est d'abord, la vie en écho, mais en écho, E-C-H-O-S.
Oui.
Et puis avec un petit jeu de mots, écho, une onde qui s'en va.
D'accord, très bien. Et donc, on a dit que c'était plus vraiment dans les librairies. Mais si les gens ont été intrigués par ta personnalité, eh bien qu'ils sachent aussi que tu es facile à trouver parce que tu es le maire de la chapelle Lasson. Depuis un certain temps, donc on peut te trouver sur les terres de la chapelle Lasson et continuer un dialogue avec toi, ce sera avec grand plaisir, j'imagine. En tout cas, moi j'ai envie de reprendre ce dialogue. Tu nous expliques le morceau dédicace et pourquoi cette dédicace ?
Alors c'est un peu Caribbean Blues de Enya, c'est d'abord un rêve qui est arrivé au tout début, un rêve réalité. Au début des années 90, je venais de rencontrer mes amis d'Alsace qui m'ont apporté un grand bouleversement dans ma vie et aussi le début de ma construction de maison où le maître charpentier qui m'avait conçu la restauration de cette vieille grange que j'ai construite en maison d'habitation, il me faisait voyager et il m'avait passé cette chanteuse-là et ce morceau-là dans sa voiture. Alors c'est assez artificiel, mais moi je trouve ça très beau, contrairement à ce que j'aime beaucoup, la voix pure, mais là c'est très beau, c'est peut-être artificiel avec beaucoup de musique synthétique, mais c'est très beau, et sa voix Enya est très belle aussi.
Oui, mais il faut vivre dans son temps, voilà, et moi exactement. Je pense que à la fois tu as ce regard en arrière, mais pour des bonnes raisons, et tu vis totalement dans ton temps.
Et j'ai pas de barrière.
Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et donc on va écouter Enya, et si vous permettez, je vais juste finir sur cette phrase qui donc a été écrite aux États-Unis au XVIIe siècle, et on ne sait pas qui l'a écrite. Et cette phrase qui va nous porter peut-être pour cette année 2026, qui est quand même déjà bien entamée. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention, tâchez d'être heureux.
envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.